Il est 12h36, les rendez-vous de l'été avec votre invité Jean Magne.
Oui, et avec un sujet qui tranche un petit peu avec nos émissions habituelles de l'été, centrées sur les spectacles, les rendez-vous de loisirs et de culture. On reçoit Jean Magne aujourd'hui, responsable de la gestion et protection des zones littorales de la Comcom Océan Marais-de-Mont. On va parler d'environnement, on va parler de trait de côte, et c'est un sujet sensible que Jean étudie, connaît parfaitement depuis des années maintenant, avec un bilan qui a aussi été réalisé assez récemment. Voilà, on va s'arrêter sur ce sujet pendant cette émission. Bonjour Jean.
Bonjour Emmanuel.
On vous connaît bien maintenant parce que je vous ai reçu quand même pas mal de fois, à la fois ici dans le studio et puis sur le terrain aussi, parce que tu es aussi un homme de terrain. On vous reçoit peut-être même depuis le début de votre arrivée à Océan Marais-de-Mont presque.
Oh oui, c'est possible parce que je suis arrivé en 2013. C'était pour travailler à ce moment-là, d'ailleurs on y travaille toujours, sur les programmes d'action de prévention des inondations, les PAPI. Et on a eu l'occasion de discuter à ce moment-là.
Exactement. Alors on vous suit, vous travaillez depuis 2013, vous l'avez dit, à Océan Marais-de-Mont. Mais on peut quand même rappeler votre parcours pour les auditeurs qui vous découvrent peut-être.
Oui, alors du coup, moi je m'occupe du service littoral la communauté de communes au sein de Marais-de-Mont, donc depuis 2013. Initialement, donc, pour travailler sur le PAPI, donc c'est un programme avec plein d'actions pour gérer les risques d'inondation, mais aussi de manière plus générale, on est sur un territoire littoral, donc on a 3 communes littorales et 2 communes rétro-littorales, pour travailler sur les risques côtiers, donc à la fois les submersions marines et à la fois l'érosion des dunes, puisqu'on a quand même 19 km de dunes sur notre territoire, donc c'est un enjeu important. Les gens viennent aussi sur notre territoire pour le cadre de vie. On a 80% d'espaces naturels qui sont donc sensibles à protéger et en même temps concilier l'attractivité touristique du Pays-de-Mont.
Ça fait partie aussi des enjeux de vos missions. Mais alors le parcours, c'est aussi comment est-ce qu'on devient un spécialiste comme ça du littoral ?
Ah, comment on devient spécialiste du littoral ? Oh, c'est venu petit à petit. J'ai toujours été attiré par le milieu marin, que ce soit au niveau professionnel ou même sur un plan plus personnel. Et petit à petit, au gré des différentes expériences, j'ai commencé à travailler sur les profils de baignade, les profils de vulnérabilité pour voir la qualité des eaux de baignade à la sort. Après, j'ai travaillé aussi en bureau d'études et depuis 2013, donc en collectivité.
Et donc, vous connaissez parfaitement le territoire là, depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, comment s'organisent les principales missions ? Parce que c'est un sacré sujet quand même, la défense du littoral.
Oui, tout à fait. Alors, on a finalement 2 gros outils qu'on va mobiliser. Pour les submersions marines, ça va plutôt être le PAPI, donc ce fameux programme d'action où on décline de nombreuses actions, que ce soit travailler sur la culture du risque, que ce soit tout ce qui est prévision, alerte, comment on peut anticiper tout ça. Les travaux également, il y a les travaux de sécurisation par exemple de la barre de Mont ont été réalisés depuis quelques années pour protéger le territoire. Donc ça déjà c'est une grosse partie de mon travail qui mobilise pas mal de temps. Et puis on a une autre partie plutôt érosion, où là on a un observatoire du littoral qui a été créé en 2009, et où là l'objectif c'est de faire des mesures, un suivi, voir comment évoluent les dunes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme type de gestion pour gérer ce fameux risque érosion.
Alors justement, pourquoi une émission aujourd'hui ? C'est que vous avez communiqué avec Océan Marais-de-Mont au début de l'été sur l'évolution du trait de côte. Déjà, on peut définir ce que c'est que le trait de côte et la manière dont vous pouvez le mesurer.
Alors, le trait de côte, c'est une vaste question parce qu'on n'a pas tous exactement la même définition, mais bon, ça se rejoint quand même. Alors, de manière très simple, on va dire, c'est la ligne entre la partie océanique et la partie terrestre. Pour être un petit peu plus précis, nous, le trait de côte, la limite, donc c'est la ligne fictive qui est parallèle au rivage, on prend la limite de végétation des dunes. Là où devant la dune s'arrête la végétation, on estime que c'est le trait de côte et que du coup vers l'océan c'est plutôt la partie qui est commandée par le rythme des marées.
Mais alors d'autres ne calculent pas cela ainsi, ne mesurent pas ça ainsi ?
Non, c'est pas forcément. Ça dépend des côtes. Déjà une côte rocheuse par exemple, on va pas pouvoir faire
forcément
ça avec la végétation.
Ouais.
Ce sera plutôt le pied de la falaise. Donc voilà, ça peut dépendre des secteurs.
Et alors ce trait de côte, il évolue énormément chaque année, chaque décennie, chaque siècle. On va voir ça un petit peu avec vous. Alors comment vous le mesurez ? Vous le mesurez avec déjà vos fameux drones là, qui depuis quelques années maintenant sont utilisés par vos soins. certains, Jean, parce que vous êtes accrédité, on va dire, pour cela.
Oui, alors le drone, effectivement, c'est la partie la plus moderne maintenant
du
travail. En fait, on a commencé, parce que l'observatoire existe depuis 2009. Par contre, on a des cartes anciennes, des orthophotos qui datent également de plusieurs dizaines d'années. Donc la première base, c'est ce qu'on appelle un peu la photo-interprétation, c'est-à-dire qu'à partir de ces photos aériennes, on zoome et on se dit, ok, la limite, elle est à tel endroit. Donc ça, c'était les premières mesures. Et après, on a utilisé, et on utilise toujours, parce que c'est ultra précis, les GPS. Donc c'est pas le même GPS que sur le téléphone, c'est des GPS qui ont une précision au centimètre près, donc ça nous permet également de faire des mesures ou du trait de côte ou alors des profils de dunes. Et maintenant, effectivement, on a le drone qui permet de couvrir de grandes étendues, d'avoir également une précision au centimètre près. Et puis, en fait, ça nous permet de modéliser et de recréer la dune en 3D au bureau et de retravailler dessus pour pouvoir interpréter ce qui se passe.
Et alors, vous évoquez effectivement cet observatoire qui est important, hein, du littoral. Vous travaillez avec des experts, hein, des chercheurs, entre autres.
Ouais, tout à fait. C'est un peu la spécificité de cet observatoire, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un agent ou quelques agents de la communauté de communes qui travaillent dessus. Initialement, et c'est toujours le cas, c'est un partenariat avec des scientifiques, avec l'Université de Nantes, le Bureau de Recherche Géologique et Minière et l'Office National des Forêts. Donc chacun dans leur champ de compétences. L'Office National des Forêts, on a une forêt domaniale de 2300 hectares juste à l'arrière des dunes, ils en sont gestionnaires, donc là-dessus c'est un partenaire privilégié. Le Bureau de Recherche Géologique et Minière, là ça va être plutôt pour qu'est-ce qui se passe au niveau souterrain, les nappes, etc. Et la partie plus sédimentologie, donc les grains de sable et les mouvements de marée avec les universitaires.
Et vous avez aussi quelques profanes qui travaillent avec vous, des habitants en fait, qui depuis 2 ans sont volontaires, très investis pour vous aider justement à faire avancer la recherche quelque part aussi.
Et oui, effectivement, alors c'est nos gardiens du littoral, c'est le nom qu'ils ont choisi.
Ouais, c'est plus joli que profane.
Oui, c'est plus sympa. Ouais. Alors oui, on avait fait un appel en 2022, si je ne me trompe pas, fin 2022, pour proposer à des personnes qui souhaitaient s'investir aussi et mieux comprendre ce qui se passe sur le littoral, de participer avec nous aux campagnes de mesure. Donc on les a formés à l'utilisation du GPS et ils vont faire régulièrement des campagnes de mesure sur le terrain. Et puis après, on se voit ensemble pour interpréter ça, pour donner du sens. C'est pas simplement vous nous apportez de l'info et puis après nous on prend et on s'en occupe. Ouais. Non, ils participent vraiment à ce travail.
Et ils sont super investis, me disiez-vous. Alors ces campagnes de mesure, elles sont régulières en fait. Là, on va parler des dernières campagnes qui ont permis aussi de voir comment le littoral avait changé ces derniers mois après des violents coups de vent. Mais tous les ans, vous mesurez régulièrement le trait de côte.
Oui, tout à fait. Depuis la création de l'observatoire, on a différents types de campagnes. Alors, on a des campagnes de profil. Alors, les profils de dunes, on fait une ligne, une tranche de dunes. On regarde la hauteur de la dune, quelle pente elle peut avoir. Et donc, on en a 23 sur le Pays de Mont qu'on suit depuis le début. Et ces campagnes, on les fait 2 fois par an. On les fait d'abord en général en avril, après la période des tempêtes, pour voir ce qui s'est passé, s'il y a eu beaucoup d'érosion ou pas. Et ensuite, on le refait en général en octobre, après l'été, où là c'est plus calme, voir si finalement le sable est revenu. Après, on peut en faire aussi de manière exceptionnelle, et ça a été le cas finalement cet hiver, c'est que dès qu'on a une tempête qu'on appelle morphogène, c'est-à-dire qui va vraiment toucher de manière importante la dune, là on refait aussi une campagne. Et ensuite, on a tous les... Bon, en général, c'est septembre-octobre, on fait le trait de côte une fois par an.
Et on voit qu'il évolue beaucoup, en fait, ça peut parfois... Enfin, ou pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il évolue beaucoup, ce trait ? Globalement, on va rentrer dans le détail.
Alors, est-ce qu'il évolue ? Alors oui, il évolue beaucoup, déjà, pour répondre à votre question. Ça dépend, finalement, du pas de temps sur lequel on se situe. Si on regarde, par exemple, depuis la création de l'Observatoire, on a une accrétion extrêmement importante de la grosse majorité de notre littoral. Alors, une accrétion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une avancée de la dune. C'est-à-dire que la dune récupère plein de sable et avance petit à petit. petit. On a, depuis la création de l'observatoire, entre 60 et 80% des dunes qui sont en accrétion et le reste globalement stable. Par contre, si on se place à une autre échelle, une centaine d'années, on va avoir 27% en érosion, 56% si je me souviens bien en accrétion et le reste plutôt stable. Donc finalement, ça dépend aussi beaucoup des mouvements des tempêtes qu'il y a pu y avoir, si les années sont plutôt calmes ou pas. Finalement, depuis la création de l'observatoire, le début a été compliqué. Il y a quand même eu Xynthia, il y a eu ensuite
2010,
tout à fait. Ensuite, il y a eu
un an après la création de l'observatoire.
Juste après l'observatoire. Hein. Attention, il n'y a pas de conseil.
Oui, non,
pose,
il n'y a pas de lien.
Non,
pas aucun lien. On ne sait jamais, vous savez. Mais oui, donc en fait...
Il y a eu 2013-2014 également. Gros, et après, ça a été vraiment extrêmement calme. Il y a eu très peu de tempêtes. Donc les dunes ont largement eu le temps de se régénérer. Et jusqu'à cet hiver où on s'est retrouvé...
plusieurs épisodes, là, cet hiver.
C'est ça, cet hiver, on s'est retrouvé un peu comme en 2013-2014. Ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu de succession et de tempêtes importantes comme on a eu.
Alors justement, ces épisodes météo assez violents à l'automne et pendant l'hiver, vous avez fait ces mesures, vous l'avez dit, au début du printemps. Qu'est-ce qu'on retient de ces épisodes? Il y a eu des gros changements sur certains secteurs?
Il y a eu beaucoup de changements, parce que mine de rien, on a eu un certain nombre de tempêtes. Céline, Kiaran, Domingo, Carlotta, Louis.
Donc ça, avec toujours des noms, on s'en amuse très souvent avec Arnaud hein, sur qui choisit ces noms-là.
Oui, voilà, quel nom.
Mais il y a quand même pas mal, juste en fin octobre jusqu'au début de l'hiver.
Hein. Ouais, une grosse succession. Alors, pour certaines, heureusement, on était plutôt sur des coefficients de marée assez bas. Donc finalement, il n'y a pas eu véritablement de dégâts, en tout cas sur notre territoire. Céline a été assez impactante, en fait, parce que du coup, le coefficient était assez important. Et puis, on avait aussi ce qu'on appelle une surcote, c'est-à-dire on a une hauteur d'eau moyenne. Et sous l'effet des vagues, de la pression atmosphérique, on va avoir, et du vent, on va avoir un niveau d'eau plus important que prévu. On avait dans les 80 cm de plus que ce qui était prévu.
Et dans ce cas-là, vous allez sur le terrain immédiatement après le passage hein, de Céline, par exemple?
Ah, bien sûr, après, pour faire le suivi des dunes, mais on est également mobilisé avant, parce qu'avec donc les prévisions, on sait qu'il va y avoir des tempêtes. Donc on se rend aussi sur le terrain, pas en pleine tempête, mais avant justement pour pouvoir anticiper et en fonction de ce qu'on va observer sur le terrain mais également des mesures parce qu'on a installé des appareils qui nous permettent de mesurer en temps réel la hauteur du niveau d'eau, donc nous on compare ça avec d'autres moments et si on estime que c'est vraiment limite dans ce cas là on déclenche ce qu'on appelle, enfin c'est les communes qui déclenchent ça, les plans communaux de sauvegarde, donc c'est une organisation en interne, est-ce qu'il faut barrer des routes, est-ce qu'il faut évacuer certains quartiers, où est-ce qu'on peut héberger les gens, etc. Alors heureusement, on n'a pas eu ce type de dégâts sur le Pays de Mont cet hiver. En revanche, oui, au niveau des dunes, on a eu des reculs importants sur plusieurs secteurs.
Alors on va faire une petite pause musicale et on revient pour donner des exemples évidemment concrets sur cet hiver, la manière dont il a joué sur le trait de côte et puis aussi aller plus loin hein, sur le siècle voilà, et sur la dernière décennie, comment ça évolue tout ça.
9FM, 12h50, voici Santa.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. J'irai danser au bord du monde.
Santa sur Nov FM avec un instant recommence-moi. On recommence pas, mais on continue, Emmanuel, pour les rendez-vous de l'été.
Avec Jean Magne d'Océan Marénemont en charge du service littoral. En gros, Jean Magne qui évoque avec nous donc, ces mesures toutes ces années qui permettent de suivre pas à pas l'évolution du trait de côte. On a des mesures donc biannuelles, même en ce moment, depuis quelques années maintenant. Mais il étudie en fait ce trait de côte depuis des années sur un long terme, sur un siècle, sur les 100 dernières années. Comment ce linéaire côtier du côté du pays de Mont a évolué ?
Alors sur 100 ans, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On a, en termes de ratio, un peu moins d'un tiers. On a 27% du linéaire qui est en érosion. C'est une tendance. Ça veut dire que sur ces secteurs en érosion, on peut avoir pendant 10-20 ans une stabilité, voire même une accrétion. Mais sur 100 ans, c'est quand même plutôt des reculs. Et on a 56% d'accumulation, donc la dune qui avance, le reste étant stable. Donc ça, ça permet de voir en fait des zones sur une centaine d'années qui vont avoir plutôt une tendance à l'érosion. Donc on a la plage de Fromentine, par exemple, qui sur une centaine d'années est plutôt à tendance érosive. Un petit secteur au niveau de la Grande Côte. Alors ça, c'est sur 100 ans, mais sur les 20-30 dernières années, c'est plutôt l'inverse. On a des grosses accumulations sur ces secteurs-là. Entre la plage d'Ailé aussi et la Paray-Garnier, où là aussi, on a de l'érosion. Et ça a un peu une spécificité. Là, on a presque une inversion maintenant où ça fait quand même aussi quelques décennies qu'on est plutôt en accrétion. La plage d'Ailé, par exemple, suite aux dernières tempêtes, n'a pas reculé. Elle a avancé. D'accord. La plage d'Ailé, en l'espace de 10 ans, elle a avancé de 20 mètres. Et juste avant les tempêtes, on a, en fait, pour gérer les dunes, pour protéger les dunes et donner un petit coup de pouce, on met ce qu'on appelle des fils lisses, donc c'est des poteaux avec un fil pour éviter qu'on piétine les dunes, permettre à la végétation de pousser, de capter le sable et de faire que la dune va grossir. Donc juste avant les tempêtes, en allant sur le terrain, ces fils lisses arrivent à peu près au niveau de la taille. Après les tempêtes, le fil lisse était au niveau des chevilles. C'est-à-dire qu'au final, il y a eu plus d'un mètre de sable qui est venu sur la dune. Donc on a eu vraiment le phénomène inverse, un ensablement en quelque sorte.
Et on voit effectivement sur les mesures, parfois vous parlez en plusieurs mètres d'évolution sur un hiver de tempête.
Oui, ça. Et c'est ce qu'il y a eu là sur ces tempêtes-là. Voilà. Au final, on peut séparer le territoire, nos 19 kilomètres, en deux parties. On a une partie au sud de la barre de Mont jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, où là, on a plutôt eu de l'érosion suite aux tempêtes. En moyenne, on est à 4 mètres de recul, mais il y a des secteurs qui ont reculé de 8 mètres, donc en l'espace d'un hiver. Et par contre, sur la partie nord, on a eu véritablement les tempêtes qui ont ramené le sable du bas de plage sur la dune et qui ont ensablé cette dune.
Alors, une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est votre rôle aussi de gérer tout ça, de limiter les dégâts sur certains secteurs. On peut limiter les dégâts ?
Oui, alors je ne prends pas de pelle et de seau pour essayer de remettre un peu de chaque côté.
Et vous l'avez dit, donc laisser la végétation.
Non, on a principalement, en tout cas, nous, c'est la stratégie de gestion qui a été choisie par les élus grâce justement aux données d'observatoire. C'est plutôt d'avoir une gestion douce des dunes, d'accompagner une dynamique naturelle, parce qu'on a la chance finalement de ne pas avoir d'enjeux majeurs menacés par l'érosion. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a un risque uniquement si derrière on a des biens humains, des activités humaines. Et cette gestion douce, c'est de protéger le pied de dune pour permettre à cette végétation de capter le sable. C'est également de travailler sur le nettoyage raisonné des plages, de laisser la laisse de mer, vous savez, ces algues qu'on retrouve sur la plage, où dedans on a toute une vie.
Et c'est pas pour rien qu'on la laisse.
Voilà, tout à fait, parce qu'en se dégradant, elle va nourrir aussi la végétation du pied de dune. Et ce qu'on a pu observer, c'est que suite à Xintia en 2010, on avait installé ce fil lisse. En deux ans, la végétation était revenue, les secteurs étaient déjà en train de cicatriser plus vite que les secteurs où il n'y avait pas de fil lisse. Et en 2013-2014, également, en l'espace de deux ans, on s'est retrouvé sur une situation complètement inversée et on est passé d'érosion à accumulation avec des avancées de plusieurs mètres. Donc on verra ce que ça donnera là, pour le secteur du Pays de Mont suite aux tempêtes. Ça va dépendre aussi de l'hiver prochain.
Et évidemment, et puis dernière question, parce qu'on aurait, j'en aurais plein d'autres. Hein. Évidemment, tout ça, c'est aussi prévoir comment l'océan évolue. Il gagne irrémédiablement du terrain également. Ça, vous étudiez, enfin, en tout cas, vous prenez en compte les études de l'élévation du niveau de la mer qui est évidente.
Oui, alors ça, c'est l'élévation du niveau de la mer. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Donc, on se base au niveau mondial sur le GIEC, mais on a aussi au niveau des Pays de la Loire un GIEC régional, le GIEC Pays de la Loire. Donc, c'est un groupe d'experts qui travaillent sur ça. On l'observe déjà, notamment avec le marégraphe de Brest, qui est le plus ancien en France, mais également sur Saint-Nazaire, où on a une élévation du niveau marin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération depuis les années 70, une accélération importante. Et selon les scénarios, sur ce qui est vu en tout cas sur notre territoire, donc selon les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'il pourrait y avoir plus de 70 centimètres d'élévation du niveau marin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau pourrait rentrer plus en avant dans les terres. Ça joue pas sur les tempêtes, ça on sait pas trop. Il pourrait y avoir des années tempétueuses, des années moins tempétueuses, mais des tempêtes moins importantes, si le niveau de la mer est plus haut, pourront être plus impactantes pour le territoire.
Ce qui n'est pas forcément très rassurant, mais ce qui est une réalité. Hein. Et ça, vous l'étudiez aussi, vous le prenez en compte. Hein.
Oui, tout à fait. Après, le fait de connaître le risque, ça permet aussi de mieux l'anticiper et de mettre en place des solutions pour mieux le gérer.
Mais c'est évidemment passionnant, votre travail, Jean-Magne. Merci beaucoup de cette pause dans l'été sur des informations importantes. Si on veut en savoir un petit peu plus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des données qui sont partagées aussi pour le grand public?
Alors, le site de la communauté de communes, omdm.fr, où vous avez tout un tas d'informations sur les dunes. On essaie de le mettre à jour régulièrement et de pouvoir mettre aussi des données à télécharger. Et puis, après, même tout simplement, contacter la communauté de communes et qui vous renverra vers moi. Je pourrai aussi.
Et puis, très pédagogue, on l'a entendu. Merci beaucoup, Jean-Magne, et merci à Comcom.